Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, nous allons débuter une nouvelle série. Matière à penser va s'intéresser à l'apprentissage ou aux apprentissages et aux troubles du cerveau. Et tout particulièrement les forces de l'esprit, encore que c'est une thématique, esprit, matière, etc. On va bien sûr l'aborder et on va en parler ce soir en compagnie d'Olivier Houdet, spécialiste des neurosciences cognitives, professeur de psychologie à l'université de Sorbonne, auteur tout récemment de « Comment résonne notre cerveau ». Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous sommes donc sur une thématique qui est passionnante, enfin qui vous passionne, je le sais, mais que lorsqu'on vous lit un peu, on est, envahi par cette soif de connaissance du fonctionnement du cerveau et toujours ces mêmes questions qui, depuis Aristote et les autres, nous traversent âme, esprit, matière et comment ça fonctionne, comment cela relationne. Vous êtes professeur de psychologie du développement et des neurosciences cognitives. Vous avez été instituteur, peintre aussi, et vous avez donc menez votre doctorat, une habilitation universitaire. Vous êtes tout récemment, en décembre, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et surtout, vous avez un énorme bagage que j'ai découvert en partie, puisque j'avais quelques connaissances, mais là j'ai pu avoir l'occasion d'approfondir. Vous dirigez, ou vous dirigez encore d'ailleurs, la collection Psychologie et sciences de la pensée chez PUF. Vous avez un laboratoire de recherche, une unité CNRS autour du développement et de l'éducation de l'enfant. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, je n'ai pas le temps, mais ça sera sur le site, de voir un peu la liste. Et vous allez publier bientôt, chez Odile Jacob, « L'intelligence n'est pas un algorithme, le cerveau fin stratège ». Mais aujourd'hui, j'ai essayé de reprendre sur ce livre « Comment résonne notre cerveau ?» Je dirais l'essentiel de cette thématique, puisque vous avez de l'histoire. Il y a tout un chapitre historique, des découvertes et un peu de la philosophie autour de tout ça. Et puis, vous faites part de vos propres expériences, parce que c'est pas uniquement dans la pensée, si je puis dire, puisque vous avez eu une thématique très intéressante, qui est celle de l'imagerie cérébrale, et particulièrement de l'imagerie cérébrale des enfants. Donc, voilà, vous vous centrez sur comment est-ce qu'on apprend. Comment est-ce que les formes d'apprentissage, et on va voir que ça peut découler non seulement sur une connaissance théorique, mais sur une connaissance pratique, puisque les réformes scolaires sont éclairées par ce type de travaux, et nous en viendrons aussi à parler de cela. De nombreuses diffusions scientifiques, de nombreuses communications, je vous remercie vraiment d'être là avec nous, pour parler donc de ce côté cognitif et émotionnel. Qu'est-ce qui vous a attiré? C'était le fait d'être instituteur et d'enseigner et de vous dire, mais où ça tombe ça? Comment c'est intégré dans le cerveau de ces petits?
Comme vous l'avez dit, j'étais initialement adolescent, artiste peintre, fougueux. Je peignais des peintures à l'huile, m'inspirant des techniques des primitifs flamands. Je suis belge d'origine, donc j'étais très porté, disons, par un processus créatif. C'est évidemment le cerveau qui crée la beauté. Donc, mais c'était encore en arrière-plan. Et j'ai souhaité, parce qu'il faut bien gagner sa vie pour acheter ses pinceaux et ses couleurs, faire un métier assez rapide du point de vue des études pour pouvoir revenir à la peinture. Et j'ai choisi le métier d'instituteur que je trouvais extraordinaire parce qu'on peut en effet apprendre à peindre et dessiner aux enfants, notamment les plus jeunes en maternelle. Et j'ai toujours été très scientifique d'esprit, de formation, bon en maths, etc. Et je pouvais également apprendre la science. Et rien n'était plus beau pour moi, jeune homme de 20 ans, que d'éveiller à la fois l'intelligence et la beauté.
C'est le plaisir de l'enseignement. Oui.
Voilà, la créativité dans le cerveau des enfants. Mmh. Mais en faisant ces études d'instituteur, j'ai découvert, faisant un mémoire, un livre de Jean Piaget, grand psychologue de l'enfant et de l'intelligence des enfants au XXe siècle, et je fus totalement subjugué. J'ai découvert, à l'âge de 20 ans, qu'il existait une science expérimentale de l'intelligence en construction chez les enfants. Je trouvais ça fascinant, et à ce moment-là, j'ai poursuivi les études de psychopédagogie, de psychologie, jusqu'à la Sorbonne, et finalement... Voyez le lien.
Donc en fait, c'est le hasard de trouver sur ce livre qui vous a motivé.
Oui. Alors c'est pas totalement par hasard, puisque je faisais des études d'instituteur et que le disons la figure magistral de haute stature de l'époque était Jean Piaget, donc il était normal qu'un élève instituteur lise Piaget. En revanche, ce qui était moins normal, c'est l'effet que cela m'a fait, parce que en effet, c'était un bouillonnement émotionnel qui m'a fait dire, c'est cela que je veux faire, ça me permettra d'être créatif dans la recherche scientifique sur l'intelligence en développement chez les enfants.
Alors, vous parlez de bouillonnement émotionnel, et j'ai envie bien sûr de vous parler de Jean Piaget, qui lui voyait plutôt une progression logique, et la place des émotions était peut-être pas celle que vous pensez être aujourd'hui.
Exactement. Alors, Piaget a décrit une théorie à laquelle je croyais à l'époque, comme tout le monde de l'éducation, de développement par stade de plus en plus logique. Un bébé, un jeune enfant qui serait très intuitif, donc pas encore logique et plutôt illogique dans ses raisonnements, vers 6-7 ans, l'âge de raison, cher au philosophe, Piaget décrivait un premier stade de logique concrète, appliquée encore à des objets réels, et ensuite seulement à l'adolescence, la logique formelle, abstraite, qui devenait celle des mathématiciens et des logiciens. Et Piaget nous décrivait ainsi une sorte d'escalier, de stade en stade, de plus en plus logique. Ce que j'appelle un modèle incrémental du développement. Et ça, c'était assez simplifié, trop simplifié, et on le sait aujourd'hui, inexact pour décrire le fonctionnement du cerveau, parce que déjà, comme vous le dites très bien, il n'y avait pas de place pour les émotions, pas de place pour les interactions sociales, ce n'était qu'un être épistémologique et logique en développement, et de surcroît, on découvre que le développement cognitif des enfants est plutôt dynamique et non linéaire, et certainement pas de façon incrémentale. Et dans cette dynamique non linéaire, vous avez différents modes de pensée, des heuristiques, des automatismes, des algorithmes logiques qui entrent en compétition. Et pour savoir quelle heuristique ou quel algorithme dans notre cerveau choisir au bon moment, il faut absolument des émotions dont on parlera, des émotions telles que le regret, l'anticipation du regret, le doute, la curiosité.
Ou la notion de l'erreur.
Ou l'émotion de l'erreur, hein, qui est à la fois négative, parce qu'on ressent quelque chose de négatif quand on a croyait répondre juste et que l'on a fait une erreur, et en même temps, l'autre côté de la face, très positif, le plaisir de découvrir, et c'est vraiment ces émotions-là qu'on étudie dans le cerveau et qui sont au cœur de la pédagogie et qui devraient l'être en tout cas.
J'ai beaucoup aimé la lecture de votre livre une citation de Jean Piaget qui dit « Avant l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel, après c'est le réel qui devient un cas particulier du possible ».
Comme vous, René Friedman, j'adore cette phrase, je la répète tant elle est belle. Avant l'adolescence, le possible, c'est-à-dire ce que l'on peut faire avec les objets, les catégoriser, les dénombrer, fait partie du réel. Mais après, grâce au cerveau, à l'imagination, au raisonnement hypothético-déductif, c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. Et vous savez, j'ai choisi tout à l'heure, puisque vous êtes laissé aux invités le choix musical, une chanson qui décrit cela, qu'on écoutera, et c'est « Être avant le jour d'après ». C'est-à-dire que notre cerveau peut précisément anticiper le jour d'après, imaginer des scénarios différents. C'est vrai pour l'artiste qui crée. Il doit d'abord imaginer un monde différent, par exemple abstrait au lieu d'être figuratif, mais c'est vrai aussi pour le scientifique qui doit imaginer que les choses puissent se passer autrement, ou chacun d'entre nous. Donc oui, le raisonnement, c'est toujours un jeu entre le possible et le réel, et surtout, imaginer que le réel n'est qu'un cas particulier du possible. Cette jeune fille qui aujourd'hui, jeune suédoise, qui nous dit ben, les enfants ne sont pas d'accord avec la façon dont vous, adultes, gérez l'environnement, qui fait un buzz absolument incroyable, qui a proposé la grève scolaire, qui est suivie dans de nombreux pays, eh bien, c'est une adolescente. Et c'est pas pour rien que c'est souvent à ce moment-là que naissent les premières grandes idées politiques ou scientifiques, parce que le cerveau se met sur un mode hypothético-déductif. Donc, les choses pourraient être autrement. L'éducation des parents, la façon dont on gère le monde, dans le cas de cette petite fille suédoise qui dit ben, « je voudrais être avant le jour d'après » et ça sera mon choix musical.
Alors, la raison, les émotions, tout ça, c'est un discours philosophique qui a lieu depuis fort longtemps et qui a été incrémenté de tout un tas de grands auteurs. J'ai pas le temps de les citer, mais on peut comprendre que depuis l'Antiquité, il y a toujours ce débat. Et on va discuter de votre livre, « Comment raisonne notre cerveau ?» puisque raison, il y a. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur les expérimentations, entre guillemets, que vous avez faites. Et ce que vous a apporté, à la différence de tous les autres, justement, jusqu'à votre travail de vous et votre équipe, c'est-à-dire l'apport de l'imagerie cérébrale, puisqu'on est centré là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce, quel a été le tilt, quoi?
Alors, le premier tilt, d'abord, je dirais épistémologique. J'étais psychologue, déjà professeur à la Sorbonne, directeur d'un laboratoire du CNRS dans les années 90, et sont survenues ces technologies d'imagerie cérébrale, qui étaient plutôt dans les hôpitaux et à usage médical. On dit d'ailleurs que c'est de l'imagerie médicale. La première technique utilisée était la tomographie par émission de positons, qui impliquait l'injection d'un marqueur radioactif en dose tout à fait faible. Et donc, on faisait ces premières expériences d'imagerie cérébrale uniquement chez les hommes adultes, pas chez les enfants, chez les hommes adultes volontaires, parce qu'une femme pourrait être enceinte sans le savoir, et donc il n'était pas question d'utiliser une imagerie invasive. À ce moment-là, cette technique était inutilisable pour les enfants, mais rapidement, est arrivée l'imagerie par résonance magnétique anatomico-fonctionnelle, ce qu'on appelle d'un sigle simple l'IRM, qui elle est tout à fait accueillante pour les enfants et que l'on peut, sous réserve de les préparer minutieusement, utiliser avec des enfants volontaires dans le cadre d'un projet pédagogique avec l'école, avec les parents. Et j'avais toujours à l'esprit une autre très belle phrase de Piaget que celle que vous avez citée. Piaget disait « L'intelligence de l'enfant est la forme optimale de l'adaptation biologique. » C'est très beau se dire que finalement, dans l'environnement qui nous entoure, il y a de multiples formes d'adaptation biologique, les plantes, les animaux, nous-mêmes. Mais l'intelligence, c'est la façon de s'adapter au mieux à son environnement. Et je me suis dit à ce moment-là, ben, les technologies sont disponibles. Ces nouvelles technologies comme l'IRM sont utilisables avec les enfants. Si on veut pousser jusqu'au bout cette idée de l'intelligence comme forme d'adaptation biologique, il faut observer des enfants à différents âges ou au cours d'un processus d'apprentissage en IRM pour voir comment leurs 86 milliards de neurones, leurs millions de milliards de connexions vont se reconfigurer. D'abord,
c'est les réseaux, se greffer dans un
apprentissage, se tromper, et puis comment ils vont se reconfigurer sous l'impact de telle ou telle intervention pédagogique, ce qui nécessitait, et mes chercheurs, mes collègues en neurosciences me disaient, ils avaient déjà très peur de mettre des enfants dans l'IRM, donc il a fallu la préparation très fine, très minutieuse, avec le respect des droits de l'enfant, que ce soit très ludique pour les enfants, et ensuite, il n'était pas envisageable pour moi de mettre les enfants une seule fois dans la caméra, ce qui était intéressant comme psychologue du développement, c'était capturer le temps. C'est le temps de l'apprentissage, c'est-à-dire les mettre plusieurs fois dans la caméra, pré-test, apprentissage hors caméra, ils retournent dans la caméra post-test, et on pouvait aussi faire des post-tests différés pour voir la stabilisation des apprentissages. Et à ce moment-là, j'ai pu, grâce à l'imagerie cérébrale, faire en effet en France d'abord les premières études dans mon laboratoire du CNRS et les premières découvertes sur comment le cerveau de l'enfant se reconfigure lorsqu'il apprend et surtout quel type de pédagogie ou d'émotion, on évoquait tout à l'heure, il faut pour que ces reconfigurations neuronales se déclenchent.
C'est-à-dire qu'en fait, on voit, donc pour nos auditeurs qui, eux,
oui,
nous écoutent,
bien sûr,
on voit s'allumer, si on peut dire, on
absolument
voit des zones.
On voit d'un réseau cérébral s'allumer, et on voit surtout, dans l'une de mes recherches, qui était la première, la plus marquante, que lorsque, dans un problème de raisonnement logique, l'élève fait une erreur, vous voyez la partie arrière du cerveau, la partie postérieure, qui s'active, un large réseau, mais pas du tout la partie avant, préfrontale. Or, on postule depuis toujours que notre cerveau devrait utiliser la logique, l'abstraction. Je recite quelques noms de l'histoire, Aristote, les syllogismes, Descartes, les règles pour la direction de l'esprit ou la méthode, Piaget, la logique. Donc on s'attend à ce que le cerveau humain soit logique, donc utilise son cortex préfrontal à l'avant du cerveau pour résoudre un problème de logique. Mais très souvent ce n'est pas le cas chez les enfants, et encore on le verra tout à l'heure chez les adultes. Et ça, on l'observe immédiatement. Si un enfant se trompe, vous voyez que c'est la partie arrière de son cerveau, donc ses automatismes perceptifs ou spatiaux qui se déclenchent. Et avec un apprentissage particulier, mais pas n'importe lequel, précisément pas un simple apprentissage à la logique, un apprentissage à l'inhibition et aux émotions qui guident l'inhibition de l'erreur perceptive ou de l'erreur sémantique, si c'est une fake news.
Pour donner un exemple, qu'est-ce que vous faisiez comme test de l'erreur? Est-ce que c'est le test des nombres?
Oui, par exemple, chez l'enfant, ça
peut-être
peut...
Pour expliquer,
oui,
c'est
tout
que...
tout à fait, le test des nombres, vous présentez... Alors, comme le faisait Piaget, j'ai absolument voulu reprendre la même situation. 7 jetons alignés, en dessous un autre alignement de 7 jetons qui sont strictement identiques. Vous demandez à l'enfant s'il y a le même nombre de jetons dans l'alignement du dessus et du dessous. Dès 4-5 ans, les enfants vous diront « oui, c'est pareil, il y a le même nombre de jetons ». Ils compteront, ils feront un appariement terme à terme. Si sous les yeux de l'enfant, vous écartez l'un des deux alignements, et pas l'autre. Et vous lui reposez la même question, donc de quantification, on traite le nombre, base des mathématiques. L'enfant va répondre jusqu'à 7 ans, « Ah ben non, là il n'y en a plus pareil ». On lui dit « Pourquoi ?» Puisqu'il y en a le même nombre. « Pourquoi ?» Mais tu vois bien, là c'est plus long. Et puis en pointant l'alignement le plus long. Et Piaget disait, l'enfant n'a pas encore la logique du nombre, il faut attendre qu'il ait 6-7 ans, le stade, l'âge de raison qu'on évoquait tout à l'heure, pour avoir cette logique du nombre. J'étais convaincu, et beaucoup d'autres chercheurs, que déjà les jeunes bébés et les enfants ont l'algorithme du comptage, donc la logique du nombre nécessaire à résoudre cette tâche, et qu'il doit se passer autre chose dans leur cerveau. Donc on a repris cette tâche, la première en IRM, et on a découvert en effet que l'enfant qui se trompe est dominé par un automatisme, ce qu'on appelle une heuristique, stratégie très efficace, très rapide, qui marche très souvent, intuitive, mais pas toujours, intuitive, longueur égale nombre. Et c'est vrai que très souvent, dans les dispositifs pédagogiques pour enfants, on apprend la suite des nombres de 1 à 10. 1, une girafe. 2, 2 hippopotames. 3, crocodiles. Ou on le fait également avec des fruits. L'enfant apprend le nombre dans le langage. Mais imaginez, chers auditeurs, cette situation. Mais votre cerveau détecte aussi une forte régularité entre la longueur et le nombre. Plus le nombre est grand, plus l'espace occupé par les fruits ou les animaux sur la planche pédagogique est grand. Ou au supermarché, un type de produits égaux sur un linéaire, donc sur un rayon, on ne compte pas. On se dit, il en reste plus là où c'est plus long s'il y a deux alignements différents. Ça, c'est une heuristique, un automatisme. Et en fait, notre cerveau, celui de l'enfant et encore celui de l'adulte, est dans cet exemple longueur égale nombre, mais dominé par cet automatisme. Si c'est plus long, il y en a plus. Ce qui est tout à fait faux dans ce cas-là, puisqu'il faut activer l'algorithme de comptage, et si l'on compte, il y en a 7 ou 8.
Mais c'est au moment où il va se rendre compte de l'erreur, voilà. Vous allez lui montrer
nous,
que c'est la même
chose, vouloir,
que là, vous voyez un système de réseau qui se met différemment.
Absolument. Et donc, on a vu à la fois ce qui se passe dans le cerveau des enfants qui se trompent, et ensuite, ce qui va se passer dans leur cerveau lorsqu'ils parviennent ou non, parce que tous ne parviennent pas, à inhiber cette heuristique, cet automatisme intuitif, longueur égale nombre, pour activer l'algorithme logique de comptage. On a fait des expériences similaires chez les adolescents et les adultes pour des problèmes de raisonnement logique, par exemple.
Oui.
Autant j'ai voulu reprendre la logique de Piaget, j'ai aussi voulu reprendre, parce que je suis très habité par l'histoire des sciences, et je crois qu'il faut toujours intégrer l'histoire dans les recherches neuroscientifiques les plus actuelles, j'ai voulu reprendre les syllogismes d'Aristote qu'on a refait chez des individus qui passaient l'IRM, quand ils se trompent, après apprentissage, quand ils réussissent.
Alors, eh bien, dans tous ces cas-là... c'est quoi? C'est, je veux dire, tous les hommes sont mortels, là?
Oui, voilà, tous les hommes sont mortels.
Non,
Socrate est un homme, donc
Socrate est mortel.
Ou des règles conditionnelles qu'on a utilisées, de type, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Vous devez rendre cette règle fausse, tâche de falsification de règle conditionnelle. Et donc, il faut, si vous déclinez l'algorithme logique, ne pas... S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, ne pas mettre un carré rouge. Par exemple, vous sélectionnez un carré bleu. Alors, il y a un cercle jaune à droite. Comme il fallait rendre la règle fausse, vous ne mettez pas un cercle jaune à droite. Par exemple, un losange vert. Ça, c'est le raisonnement logique simple. C'est élémentaire. Mais la plupart des adolescents et même beaucoup d'adultes se trompent et répondent carré rouge, cercle jaune. Ils s'imaginent qu'en faisant un appariement perceptif avec les deux éléments cités dans la règle, ils vont aller contre la règle. C'est comme chez l'enfant pour la longueur, mais dans un domaine plus complexe, la logique, on bricole. Notre cerveau bricole, utilise un schéma d'appariement perceptif, reprend les deux éléments cités dans la règle, et en fait ce n'est pas du tout cela qui rend la règle fausse, puisqu'il faut qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche, donc il faut inhiber carré rouge dans son cerveau, pour dire les choses rapidement, et activer un non-carré rouge, par exemple un carré bleu, et de l'autre côté, il faut inhiber cercle jaune, qui pourtant est présent dans l'énoncé, donc c'est très difficile, et c'est vraiment un problème pédagogique, ça. Sortir du cadre, sortir de l'énoncé, inhiber cercle jaune pour activer un losange vert, qui n'est pas un losange vert, mais qui est un non-cercle jaune. Et c'est vraiment cette chose-là qu'on étudie dans le cerveau, comment notre cerveau, chez l'enfant, mais encore chez l'adulte, a énormément de mal, finalement, à inhiber ses automatismes perceptifs pour activer la logique, qui souvent est là. Elle est ailleurs dans le cerveau.
Est-ce que c'est pas dans cette force de l'inhibition, justement, qu'on a un espace de pensée, quoi?
Complètement. C'est ce qui manquait chez Piaget. On disait, le réel devient un cas particulier du possible. Oui, mais comment? Et pour justement se dégager du réel, il faut absolument ce processus d'inhibition. Et c'est ça qu'on voit en imagerie cérébrale, comment le cortex préfrontal, à l'avant, est une partie très précise qui est l'épicentre du contrôle inhibiteur, le cortex préfrontal inférieur droit, que retrouvez dans tous les laboratoires du monde de neurosciences. À chaque fois qu'on doit inhiber un automatisme, c'est cette région qui s'active. Et mon but, c'est de créer une pédagogie de cette inhibition. À l'école, on a toujours une notion négative de l'inhibition. Être un enfant inhibé, c'est un enfant qui n'est pas créatif, qui n'est pas intelligent. Mais on n'a pas vu, ce que les physiologistes savent depuis le 19e siècle, que le cerveau est très inhibiteur. La moitié des neurones ont une action inhibitrice. Et les psychologues ont oublié cette notion d'inhibition en arrivant aux sphères plus éthérées, plus psychologiques. Piaget ne parlait plus que de logique et plus du tout d'inhibition. Or, la clé du problème, et surtout dans les tâches de Piaget, c'est d'inhiber un automatisme perceptif pour activer un algorithme logique. Ce qui fait que Piaget s'est trompé. Quand l'enfant disait « il y en a plus là parce que c'est plus long », Piaget disait « vous voyez, il est intuitif, donc il est encore à un stade intuitif qui n'est pas logique ». C'est plus compliqué que ça. Dans le cerveau des enfants maternels, il y a déjà l'algorithme logique de comptage, mais ils ne parviennent pas à inhiber, ce qui est très tentant pour eux, tomber dans le piège longueur égale nombre.
Excellent. Je pense que si j'étais sous IRM, là, ça, on verrait que ça cogite.
On portera nos regrets si nous survivons peut-être. Le souvenir dévasté de notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps où l'on se fait si honteux d'avoir eu tort, d'oublier que l'on pouvait. J'ai rêvé la douceur de certains soirs. J'ai rêvé surtout qu'il n'était pas trop tard. Espérer que l'on pouvait changer. J'ai rêvé d'être encore avant le jour d'après. Devant d'autres indifférents à l'essence de la terre, quand la nature se venge, il n'est plus temps des prières. On peut détourner nos têtes, s'enfermer dans nos armures, se noyer de bains de fête, et puis foncer dans le mur. J'ai rêvé la douceur de certains soirs. J'ai rêvé surtout qu'il n'était pas trop tard. Espérer encore de pouvoir tout changer. J'ai rêvé d'être encore
Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous venez d'entendre Le jour d'après de Chimène Badi, qui vient illustrer tout à fait notre propos sur les forces de l'esprit. Et nous sommes avec Olivier Houdet, qui vient de sortir un livre « Comment résonne notre cerveau ?» et qui va en sortir beaucoup d'autres, mais le prochain en tous les cas chez Odile Jacob, sur les algorithmes et je dirais la finesse, l'intelligence justement du cerveau. Il y a énormément de choses à dire sur cet apprentissage, je dirais, de l'enfant, qui est votre thématique première. Et je voulais avoir votre réaction sur une expérience qui a été faite sur les souris. Alors, on n'est pas chez les enfants, bien sûr, mais on fait un choc électrique, on fait un son particulier, puis ensuite on arrête le choc électrique, on fait que le son. Et finalement, elle s'arrêtait quand elle avait le choc électrique, bien sûr, associé au son, mais elle s'arrête aussi, elle est immobilisée quand il y a que le son. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que des souris qui ne sont pas soumises à cette expérimentation, mais qui regardent, qui sont là en tous les cas, vont réagir de la même façon, uniquement avec le son. Donc, il y a une espèce d'apprentissage par l'observation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir dans vos études?
Oui, la première partie d'expérience que vous décrivez, c'est le phénomène très connu d'apprentissage par conditionnement, où on peut substituer un stimuli arbitraire au stimuli réel déclencheur de départ. Hein, Pavlov a le prix Nobel pour ce type d'expérience au début du XXe siècle. Mais le plus intéressant, en effet, dans l'étude, c'est que des souris qui observent vont imiter, apprendre par observation, par imitation. Alors ça, c'est un processus très connu en psychologie du développement, c'est-à-dire l'enfant apprend par l'action, comme disait Piaget, mais tout autant par l'imitation, l'apprentissage social. Et un autre grand psychologue, il s'appelle Bandura, avait très bien formalisé cela. Mais en allant plus loin, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ce contrôle inhibiteur dont on parlait tout à l'heure, qui est dans le cortex préfrontal, grande partie à l'avant de notre cerveau et qui doit se développer et qui se mature en fait assez lentement chez l'enfant, doit être guidé par des émotions, bien sûr, mais aussi par des aspects liés au contexte social. Et en fait, un enfant peut apprendre à inhiber son erreur ou son automatisme erroné par lui-même. Donc, on va dire, c'est l'apprentissage par l'expérience propre, mais peut aussi apprendre simplement par imitation. On peut voir un autre enfant qui ne tombe pas dans le piège, par exemple. Vous savez, l'exemple des jetons que je donnais tout à l'heure, on peut très bien remplacer les jetons par des bonbons, faire deux alignements de bonbons plus ou moins longs et faire en sorte que dans l'alignement le plus court, il y ait plus de bonbons. Alors on sait que là, l'émotion joue beaucoup et que dès l'âge de 2 ans, les enfants réussissent, se laissent pas piéger par la longueur parce qu'il y a un défi, un enjeu, donc leur système émotionnel est très engagé. Mais imaginez qu'un autre enfant, comme vos souris dans l'exemple, observe simplement la scène. Eh bien, elle peut apprendre à inhiber en imitant la capacité d'inhibition de l'autre. Et ça, c'est très important parce qu'il ne suffit pas de dire que l'apprentissage social marche ou par imitation. Il faut savoir ce que l'on imite. Et c'est précisément aujourd'hui dans la modélisation, finalement, de ce que l'on imite, les modèles imitatifs, dont le processus préfrontal de cerveau d'inhibition est très important. Donc, apprenons aux enfants à observer comment les autres inhibent et ça leur sera très utile pour le contrôle du comportement et le contrôle de la pensée. Enfin, on peut apprendre par instruction aussi, ce qui est moins facile chez les souris parce qu'elles ne maîtrisent pas le langage. Mais chez les enfants, on a tout le pan de l'instruction. On peut apprendre un enfant à faire attention, inhiber ou bloquer une stratégie dans telle ou telle situation. Et mais nous, on l'a fait dans des situations très pédagogiques.
Comment vous abordez la question de la déduction ? Parce que la déduction, oui. Je dirais ce phénomène, je veux dire qui va nous faire justement. Alors, je crois que ça a été une des thématiques, je veux dire qui a conduit justement Daniel Kahneman au prix Nobel, qui est un des premiers psychologues, hein, je veux dire, à avoir le prix Nobel en 2002. Qu'est-ce que vous faites entre déduction et induction?
Alors, c'est pas l'un des premiers psychologues, c'est le dernier psychologue à l'avoir eu. Il y en a eu un certain nombre au XXe siècle qui obtenait le prix Nobel, soit en économie, en effet, soit en physiologie et médecine. Il n'existe pas en soi de prix Nobel de psychologie. Alors, Kahneman a précisément démontré que les adultes, y compris ayant une formation très, très académique, élevée au MIT, à Princeton, en fait, dans des tâches de logique déductive élémentaire, se trompaient. Se laisser emporter justement parce que ce que l'on appelle des biais cognitifs, des erreurs, des automatismes. Kahneman en a conclu que finalement notre cerveau adulte n'est pas logique, déductif, comme le préconisait ou l'imaginait Aristote, Descartes et ensuite Piaget, que notre cerveau était plutôt ce que Kahneman appelait de type système 1, c'est-à-dire très rapide, très intuitif, mais souvent erroné. Alors que le système qu'il a appelé 2, la logique, est très très rarement appliqué par le cerveau humain. Donc cette théorie de deux systèmes est la grande théorie dominante depuis Kahneman et depuis son prix Nobel. Mais moi, je pense qu'il manque un troisième système qui précisément se développe au cours de l'enfance. Et c'est normal que Kahneman ne l'ait pas observé parce qu'il travaille sur des adultes. Donc il n'a pas vu comment précisément au cours de l'enfance apparaît la logique et puis elle disparaît, elle réapparaît. Et donc ce qu'il manque dans ce schéma, c'est un troisième système d'arbitrage.
Sur lequel vous avez travaillé,
voilà,
vous-même.
Mon système, je dirais, mais ça implique les trois autres. Et donc vous avez la figure dans l'ouvrage. Trois systèmes. Le premier, un système heuristique, ultra rapide, parfois inconscient, c'est le système de Kahneman. C'est là où les automatismes cognitifs, les biais se glissent, s'immiscent dans le cerveau de l'enfant, comme dans le nôtre quand nous sommes irrationnels. Un deuxième système, la logique. Alors la déduction, le raisonnement hypothético-déductif, les syllogismes, tout ce qui est la logique qu'on pourrait appeler aujourd'hui les algorithmes. Ce sont les algorithmes qui, eux, lorsqu'ils sont exacts, qu'il n'y a pas de bug, prennent plus de temps au cerveau, demandent un effort cognitif, mais conduisent toujours à la solution exacte. Alors que les heuristiques sont plus rapides, mais sont plus incertaines et moins fiables. Vous comprenez bien que le cerveau doit arbitrer entre ces deux systèmes. Et le prix Nobel de Kahneman démontre qu'on arbitre mal et qu'on est souvent irrationnel. Et Kahneman a eu son prix Nobel en économie pour avoir démontré, cassé, si vous voulez, le postulat rationnel des agents économiques. Il l'a mis en cause. Il a montré comment des agents économiques se trompaient systématiquement dans des tâches de jugement perceptif, de jugement cognitif, à leur insu, évidemment. Donc, le constat de Kahneman était très pessimiste. On est irrationnel et condamné à l'irrationalité. Et dans ce livre-ci, et au PUF, Comment raisonne notre cerveau, et le suivant chez Odile Jacob, l'intelligence humaine n'est pas un algorithme. Je dis que l'intelligence n'est pas seulement la logique, l'algorithmique, le système 2. Elle n'est pas non plus seulement réduite aux intuitions souvent erronées, c'est dans l'arbitrage et ce système d'inhibition est absolument indispensable parce que sinon, on va toujours au plus rapide. Et aujourd'hui, plus que jamais dans le monde des écrans et du numérique, on va au plus rapide et notre cerveau qui pourtant a de la logique, a de la rationalité, a ses algorithmes, Aristote, Descartes et Piaget avaient raison, mais ce qu'on découvre, c'est que le cerveau n'utilise pas cette logique spontanément et qu'il faut dès lors, à l'école, et ça on a tout à fait raté parce qu'on n'a pas conçu comme ça l'intelligence, insister sur l'exercice de ce processus inhibiteur qui permet au cas par cas d'inhiber les heuristiques pour activer les algorithmes. Et c'est ce qui fait que quand un enfant a des bonbons à la place des jetons, mais très tôt, il est capable d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre pour activer l'algorithme de comptage.
Alors cette réflexion que vous menez, je dirais, est-ce qu'elle est reprise actuellement dans le Conseil scientifique de l'Éducation nationale ? C'est-à-dire dans la volonté de transformer ou d'intervenir sur l'éducation des enfants. On a dit, mais enfin, il y a beaucoup de neurosciences, certains ont dit, il y a beaucoup de neurosciences, certains psychanalystes se sont élevés contre cela, d'autres ont critiqué justement qu'il n'y avait pas suffisamment on tenait pas suffisamment compte de l'environnement, ce qui n'est apparemment pas le cas, puisque au contraire, vous insistez sur le rôle de l'environnement, des affects, des émotions aussi. Alors voilà, une période où on voit bien, après le livre de Michel Serres sur Petite Poussette, c'est-à-dire tout ce qui est la place du virtuel, hein, je veux dire, comment est-ce que vous voyez cet ensemble dans la formation des enfants, telle qu'on devrait la faire dans notre pays ?
D'abord, je pense que il faut convaincre les professeurs. Il faut un processus non pas seulement de rationalité sur les sciences cognitives, mais de persuasion. Là, je suis très pascalien. Il faut pas seulement de la géométrie, il faut de la finesse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en place, c'est avec l'éditeur scolaire Nathan, une plateforme pédagogique numérique interactive qui s'appelle Léa. L'école aujourd'hui, les auditeurs peuvent cliquer, c'est d'accès gratuit. Vous pouvez télécharger des ressources, par exemple ce que j'ai décrit, une fiche scientifique ou qu'est-ce que c'est vraiment une heuristique dans le cadre de la classe. C'est quoi un automatisme cognitif et scolaire qui trompe l'enfant à l'insu très souvent de l'enfant, bien sûr, mais aussi du professeur. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme dans ce cas-là ? En général, c'est le programme scolaire, c'est la notion logique, le concept en maths. En français, des règles de conjugaison, des algorithmes de conjugaison ou en raisonnement pour le secondaire, des algorithmes logiques. Et les professeurs essayent de voir au cas par cas, est-ce que l'erreur de l'enfant ne viendrait pas plutôt de la difficulté qu'il a à inhiber une heuristique que personne ne n'avait identifiée que d'activer l'algorithme. Et alors, le professeur travaille sur toute autre chose. Il apprend aux enfants, et ce qu'on fait de façon collaborative, avec maintenant des milliers d'écoles, non seulement en France, mais dans toute la francophonie, parce que cette plateforme numérique est en français d'accès pour toute la francophonie, on fait cette science participative, et c'est important de le dire, parce qu'il en existe en médecine, beaucoup, ou dans les questions climatiques, écologiques, d'environnement, sciences citoyennes, participatives. J'ai développé depuis la rentrée depuis 2 ans, la rentrée 2017, ce grand programme de sciences participatives qui implique toutes les académies de France, mais internationales, où les profs téléchargent les ressources, lisent les livres ou simplement les fiches techniques qu'on leur prépare et expérimentent en classe et entraînent 10 minutes par jour ce contrôle inhibiteur qui est la clé de l'intelligence dont j'ai parlé et en faisant les choses de façon scientifique. Un groupe contrôle dans la classe, un groupe expérimental qui s'inverse ensuite pour que tout le monde ait quelque chose d'amusant, je dirais. Un pré-test et un post-test. Vraiment, on dirait
par exemple, la méthode scientifique. Pour les tests, pour qu'on comprenne, qu'est-ce que vous...
Le pré-test, vous testez toute une série de tâches cognitives et scolaires chez l'enfant. Par exemple, on sait que les enfants ont beaucoup de difficultés avec les lettres en miroir. Mm-hmm. Ils confondent le B et le V, le B et le Q. On a pu découvrir, grâce à un doctorant de mon laboratoire qui a fait sa thèse sur ce sujet, que c'est une difficulté à inhiber le risque de généralisation en miroir. Si je vois René Friedman arriver dans ce studio par la gauche ou par la droite, mon cerveau infère immédiatement, généralise que quelle que soit votre orientation latérale, c'est vous. Ça marche pas pour les lettres, cette heuristique, puisque précisément le B et le D ont une orientation latérale différente, mais c'est pas le même objet, c'est pas la même lettre. Donc dans ce cas-là, vous voyez, je vous donnerai d'autres exemples, mais l'algorithme, c'est l'alphabet, et les correspondances graphophonologiques. Si on décline l'alphabet que l'enfant apprend, il ne confond pas un B ou un D, mais le problème, c'est que le cerveau ne fonctionne pas seulement avec les algorithmes qu'on lui apprend. Il y a l'heuristique de généralisation miroir qui est inconsciente, qui vient court-circuiter l'alphabet parce qu'elle est plus rapide. Et avant que l'enfant n'ait appris à lire, un B et un D sont en effet deux formes qui sont les mêmes, simplement elles sont orientées différemment en miroir. Vous avez des exemples en maths, ceux que j'évoquais avec les jetons, et tout ça en fait dans le pré-test, hein, des tâches où l'enfant se trompe en fait dans des problèmes très scolaires, non pas parce qu'il n'a pas compris la notion, il l'a, mais par défaut d'inhibition d'une heuristique inconsciente qui vient la court-circuiter. Vous avez aussi des tâches, on dit Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes? Et dans une classe, en primaire, tous les enfants vont dire « Maîtresse, maître, je connais la réponse, 30 ». Ils entendent dans la question, donc à travers le langage du professeur, 25 plus et 5, 25 plus 5 égale 30. Or, si vous redéclinez ce problème, la réponse est 20. Il fallait faire 25 moins 5 égale 20, qui est très simple. C'est un algorithme de soustraction. L'enfant ne parvient pas à inhiber l'addition parce que d'habitude, quand la maîtresse dit un problème avec un plus de chiffres, de nombres et un égal, on additionne. C'est une heuristique purement scolaire. Et vous voyez, j'ai donné des exemples d'heuristiques déclenchées par l'espace, les jetons plus ou moins écartés, mais là c'est une heuristique sémantique déclenchée par le langage. Et donc ça révolutionne l'éducation parce que les profs, mais de façon à ce qu'ils soient convaincus. Ça, ce sont des neurosciences, permettez-moi de le dire, qui leur apportent quelque chose. Ils comprennent qu'il y a des processus qu'ils n'avaient pas perçus, qu'ils n'avaient pas analysés dans leur pratique scolaire et qu'ils pourraient changer ou affiner, comme on le fait en médecine, par exemple, affiner à partir des découvertes de la science, affiner. Si on dit simplement au professeur, il faut refaire la méthode syllabique, il faut répéter le B.A.B.A., donc simplement l'algorithme de l'alphabet, les professeurs se disent souvent, on le faisait déjà, et y avait-il besoin des neurosciences pour identifier ce processus. Donc je suis pour essayer de faire des neurosciences plus finement et avec réellement une valeur ajoutée pour les professeurs et pas simplement dire on va regarder ce qui se passe dans le cerveau ou instrumentaliser les neurosciences pour revenir à telle ou telle méthode pédagogique classique.
Donc on voit bien qu'il y a une place qui est prise par les neurosciences. Elle vient après, je dirais, toutes ces écoles Montessori, Freinet, De Croti, qui étaient une volonté différente hein, de l'apprentissage. Et elle vient avant, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle.
Oui.
Alors, comment est-ce que vous voyez et l'un et l'autre, ce passage?
J'écris un autre livre qui était le précédent, qui s'appelle « De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives ». Et on peut en effet ajouter De Croli pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'intuitions. Montessori disait, par exemple, il faut apprendre ou entraîner l'enfant, l'attention chez l'enfant. Mais le processus d'inhibition dont je parle dans le cortex préfrontal, c'est de l'attention sélective. C'est être capable, avant de répondre, d'imaginer les solutions, d'en inhiber une pour activer l'autre. Mais disons que Montessori, comme Freinet, comme Piaget, restait dans une observation des comportements des enfants. Montessori et le même médecin auraient rêvé d'utiliser l'imagerie cérébrale. Aujourd'hui, on a l'imagerie cérébrale avec tous les exemples que l'on a vus de processus qu'on peut découvrir. Mais on parle surtout d'intelligence artificielle, en effet. Et mon prochain livre qui sort là, chez Odile Jacob, s'appelle « L'intelligence n'est pas un algorithme, le cerveau fait un stratège ». Et c'est cela que je veux expliquer. Que finalement, l'intelligence n'est pas seulement activée ou ordonnancée des algorithmes. C'est plus subtil que cela. C'est inhiber des heuristiques et savoir au cas par cas à quel moment il faut inhiber ces heuristiques. Et c'est décisif dans l'intelligence de l'enfant. Et ça va être décisif pour les big data et l'intelligence artificielle parce que tous les spécialistes du domaine se rendent compte que finalement ces grandes bases de données créent des heuristiques, créent des biais cognitifs parce qu'elles ont été collectés chez des humains avec leurs propres biens. Et vous avez vu des systèmes dits intelligents artificiels qui étaient laissés dans la nature quelques jours pour apprendre et qui en 24 heures devenaient racistes, devenaient sexistes par leurs propos, c'est-à-dire déclinaient des heuristiques, des stéréotypes sociaux qui sont aussi des formes de court-circuit de la pensée logique, morale, algorithmique. Donc, plus les bases de données sont grandes, plus les mécanismes d'apprentissage seront statistiques et rien de pire, entre guillemets, que les statistiques pour nous enfermer dans des automatismes, pas toujours, mais quelquefois erronés. Donc, il faudra, et je crois au pouvoir scientifique des informaticiens, mais il faudra qu'ils inventent des ordinateurs qui ont un cortex préfrontal et pas seulement un cortex visuel. Pour l'instant, on est dans la simulation du cortex visuel de la mouche. C'est pourquoi ça marche super bien pour l'identification des visages. On voit même maintenant des créations de visages très plausibles, mais qui n'existent pas, parce qu'on est dans le visuel, dans l'image. Mais si on allait dans le raisonnement, dans la réflexion, et surtout dans un ordinateur intelligent qui doit inhiber ces automatismes, c'est-à-dire toutes les statistiques automatiques qu'il a engrangées sur un grand nombre de bases de données, donc qui vont être très fortement présentes dans la base de données. Inhiber cela, c'est très difficile. Et il faut que l'ordinateur, ce qu'il ne peut pas faire, ressente l'émotion pour inhiber, c'est-à-dire, et du doute, de la curiosité, anticipe le regret, donc un enjeu qu'on peut appeler d'homéostasie, c'est-à-dire de survie. Qu'est-ce qui est bon ?
D'équilibre.
D'équilibre. D'équilibre. Et cet équilibre est lié à l'aspect biologique de notre corps. J'ai beaucoup travaillé avec Antonio Damasio sur ces sujets-là.
Oui,
nous sommes très proches intellectuellement parce que ce qui décrit cette émotion qui guide l'inhibition.
Donc vous pensez que Descartes s'est trompé?
Au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas qu'un algorithme et n'est pas que la logique ou la méthode de Descartes, les syllogismes d'Aristote ou les structures de plus en plus logiques de Piaget. L'intelligence, c'est combiner trois systèmes, heuristique, algorithme et inhibition, et le plus difficile à mettre en place, et c'est pourquoi nous adultes, on a aussi beaucoup de mal. Mes tests de logique, je les ai faits en France avec des polytechniciens dans des grands groupes industriels français qui se trompaient comme se tromperait un enfant pour longueur égale nombre. C'est-à-dire, présentaient l'appariement perceptif, réponse heuristique, alors qu'ils auraient dû faire une réponse logique, comme je l'évoquais. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce que, et en même temps, effrayant, ça veut dire que les esprits les mieux formés, très logiques, par un cursus académique où on a fait compiler et répéter des algorithmes, est totalement démuni lorsque une heuristique, un automatisme vient entrer en conflit. Donc, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça sera encore pire, parce que des bases de données, grandes bases de données, elles-mêmes véhiculant des méga-heuristiques, vont être offertes à ces cerveaux qui eux-mêmes ont déjà du mal à inhiber leurs propres automatismes. Et donc, vous comprenez que c'est sur ce contrôle inhibiteur qu'il faut travailler. Quand le PDG de Facebook bloque tout un certain nombre de comptes, en fait, il fait cela, il réalise que devrait faire le cortex préfrontal, il inhibe, il bloque, mais c'est une façon là très autoritaire de le faire. Il faudrait inculquer cette autorégulation chez chaque enfant qui lui permettra, étant adolescent, d'inhiber une fake news, par exemple, qui est une heuristique qui court-circuite une déduction logique, une vérification de la validité de l'information, etc. Alors, la passion me fait être bavard.
Mais au contraire, on est emporté. Et puis on reste toujours avec cette grande question, qu'est-ce que l'intelligence humaine ? Vous l'avez dépiauté un peu, je dirais, en nous donnant quelque chose, je dirais, à réfléchir. C'est pas la liste de Howard Gardner en 83 hein, qui nous faisait des espèces de chapitres, 8 ou 9 types d'intelligence. C'est beaucoup plus mêlé, beaucoup plus chaotique. Beaucoup plus, je dirais...
Absolument. Et alors, Gardner a un avantage, c'est qu'il a indiqué qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence. Donc, disons, il a introduit de la variabilité dans l'intelligence et pas seulement focalisé sur l'intelligence logico-mathématique. Okay. Mais ça s'arrête là. Ce qu'il faut comprendre précisément, c'est comment l'enfant apprend à être le chef d'orchestre de ces différentes formes d'intelligence et surtout les caractériser en termes de mode de réponse, de stratégie. L'intelligence, c'est toujours de l'adaptation, s'il fallait en donner une définition simple.
Voilà, c'est pouvoir s'adapter et ressentir et déduire.
Voilà.
C'est beaucoup, mais c'est le privilège de l'homme. Voilà, vous êtes sur France Culture. Vous avez pu écouter Olivier Houdet, spécialiste des neurosciences cognitives. Et cette émission, donc, qui fait partie de notre nouvelle série Les forces de l'esprit, apprentissage et troubles du cerveau, va se poursuivre. Et avec toujours la même équipe, en tous les cas, aujourd'hui, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Dany Journaud, Joséphine Lampréa et Cédric Châtelus. Voilà. Réécoutez autant que vous le souhaitez. Prenez le site internet franceculture.fr et rendez-vous demain pour la suite de la plonger dans le cerveau.